Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
La tristesse de se rendre compte qu'en fait, qu'on n'est pas victime d'un système, mais qu'on est co-responsable aussi de ce qui nous arrive. Et j'ai décidé de me regarder en face, c'est-à-dire de voir un peu tous les rôles que j'avais joués, donc de m'appliquer un petit peu toutes les prises de conscience que j'avais eues dans ces livres, parce que la théorie, elle est belle. Et on en a des théoriciens, des spécialistes de tout. Moi, j'étais un spécialiste de tout, mais j'étais un spécialiste de rien du tout, en fait. Je me présente, Raphaël Poulain, j'ai 41 ans, je suis un ancien rugbyman ayant évolué pendant près de 8 ans au sein du Stade français à Paris au début des années 2000, père de deux enfants, pacsé et originaire de Picardie. Ben, ma déviation, en fait, c'est une multitude de petites déviations, pas mal d'échecs, de remises en question, quelques succès éphémères et puis voilà, une grosse remise en question sur ma place d'homme dans cet environnement et sociétal et intime. Voilà. Donc, j'ai deux grandes sœurs. Ma mère était assistante sociale, mon père était dessinateur industriel. Et puis j'ai grandi dans un petit village de Picardie, voilà, où j'ai vécu une liberté totale. J'allais chercher mon lait le matin à la ferme. J'étais dans ma petite école de village. Enfin, j'ai eu la chance de connaître le rugby aussi. C'est un sport que j'aime encore aujourd'hui. Et où là, t'as une multitude de différences. T'as des gros, des grands, des gras. T'as une race, c'est l'humain. Et puis tu t'amuses avec un ballon ovale. Il faut faire des passes en arrière pour aller vers l'avant. J'ai commencé à 7 ans. Au fur et à mesure, voilà, je fais mes armes. J'ai un corps qui se développe. Je suis un peu foutu tel que vous me voyez aujourd'hui avec quelques kilos en moins et avec des cheveux. Et il s'avère que la veille de passer mon bac, il y a le Stade français, donc l'équipe parisienne qui était championne de France en titre, qui appelle mon père et qui me dit, voilà, on aimerait essayer faire des tests à Raphaël parce que il peut être prédestiné à faire une carrière de rugbyman. Et moi, je pensais faire un BTS commerce gestion et puis rester dans ma petite ville de Beauvais. Donc je débarque à Paris, je fais des tests, je pète deux clavicules et puis l'entraîneur vient voir mon père à la fin et puis il dit, bah, il est énorme, je pense qu'on aimerait l'avoir dans notre équipe. Donc là, électrochoc, bah comme tout le monde le vit, hein, on part de chez ses parents, on découvre une ville telle que Paris. Très très rapidement, Bernard Laporte, qui était l'entraîneur de l'équipe première, dit « avec 100 kilos, tu seras le meilleur ». J'en faisais 92. Je me dis « bah ouais, je vais me mettre à la muscu ». Et puis, il a raison, donc je vais prendre 8 kilos de muscle en un an, sans me doper. On gagne un titre de champion de France Réchelle, qui est la catégorie phare des juniors en France, en 99, avec une équipe de malades. Et c'est le dernier match que je joue avant que l'enjeu ne dépasse le jeu. Max Godini, qui était patron d'énergie aussi, me dit « Rejoins-moi au 22 rue Boileau, il faut qu'on parle. » Donc je monte dans son bureau et il me dit « Bernard Laporte était là le jour de la finale et il trouve que tu as un mental d'enfer, un physique d'acier. Il veut te faire signer un contrat pro. Et tu vas toucher 9000 francs, si tu fais 5 matchs, tu vas toucher 18000 francs et si tu fais 5 matchs en plus, tu toucheras 27000 francs. » Soit à peu près ce que mes parents touchaient à eux deux. Donc là, je me souviens, je m'allume une clope, je bois un Coca Light, et puis je signe, et puis j'appelle mon père en sortant, je dis « Papa, je suis rugbyman professionnel, on est en septembre 99. » Donc je vais vivre une aventure extraordinaire, parce que le rugby se découvre professionnel, parce que c'est Paris, parce que c'est le Stade français, parce que il y a des mecs qui arrivent d'univers complètement différents, il y a des Uruguayens, il y a des Argentins, il y a des Sud-Africains, tout le monde fait l'effort de parler français. L'objectif de Max Gozini en début d'année, tu rentrais dans le vestiaire, il te disait on va être champion de France et champion d'Europe, donc des gros objectifs. Moi, je découvre la notoriété, je découvre l'argent, je découvre une forme de gloire éphémère, je découvre des stades pleins, débarquant d'un petit village de 700 habitants, où deux ans auparavant, j'enlevais des betteraves montées et des mauvaises herbes dans les champs pour m'acheter un casque de mobylette. À 20 ans, voilà, je dirais une étoile filante, au milieu d'une constellation de stars, je vous citerai, pour ceux qui connaissent un peu le rugby et celles qui connaissent le rugby, Christophe Dominici, Diego Dominguez, j'aimerais tous vous les citer parce que c'était très très fort. Et entre 99 et 2005, j'ai la chance de gagner 3 titres de champion de France, de faire 2 finales de Coupe d'Europe, et puis 5 fois les calendriers des dieux du stade. Ça, c'est pour le côté paraître. Mais je suis extraverti, j'aime la lumière, et surtout une préparation physique qui était un peu, je dirais, galvaudée, une hygiène de vie qui n'était pas terrible non plus, donc une blessure qui en amène une autre, Et en fait, en 6 ans, je vais avoir 6 opérations. J'ai le nez pété, j'ai des agrafes dans cette épaule-là, j'ai une vis dans ce bras, j'ai une plaque dans ce bras, j'ai une couille qui a explosé au stade de la Méditerranée à Béziers devant 10 000 personnes, j'ai le genou éclaté, et je fais ma rééducation, et je veux revenir sur le terrain parce que l'aventure est tellement énorme. Et je pense que je m'oublie un peu. C'est un peu le déni de ce corps qui lâche au fur et à mesure. Donc je ne vais pas jouer une finale de mon club. Et j'ai cette image aussi au fur et à mesure du branleur un peu bringueur au Stade Français. Je fais la promo des calendriers sur toutes les chaînes de télé. Et cette image d'espoir du siècle, en fait, elle est écornée au fur et à mesure. Et puis moi, ma volonté, c'est d'appartenir au groupe, quoi. Donc je commence à être plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières. La blessure principale, c'est que j'ai vécu ce qu'on appelle dans le milieu professionnel du harcèlement moral sur ma dernière année aussi de rugbyman en 2005. Et j'arrête ma carrière au stade de France lors d'une finale contre Biarritz à 23h45, plus sur un coup de tête parce que psychologiquement, j'y suis plus, quoi. Je prends pas ma part de responsabilité à ce moment-là. J'ai une colère que je mets en moi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 25 ans ? J'avais fait du théâtre au collège et au lycée. J'avais fait 3 pièces de théâtre, donc j'ai décidé de devenir comédien. Je fais une formation de comédien avec 3000 euros de chômage par mois, avec cet appartement de 70 mètres carrés aussi dans Paris. Sauf que j'ai ce gabarit-là, je fais 100 kilos, donc les seuls castings que je passe, c'est des castings pour être brancardier ou videur de boîte. Les gens ne voient qu'à travers cette image corporelle, on va dire. J'ai un agent qui me montre les dents, les ratiches devant les réalisateurs en disant « Regardez comme il est beau, il était dieu du stade, mais en fait, j'ai envie de l'envoyer chier parce que je suis pas que ça, quoi. » Et je fais un casting au Théâtre Marigny pour jouer le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. Donc, vous voyez comme je tchatche. Très compliqué d'être muet 2 heures tous les soirs. Pièce de théâtre avec Isabelle Adjani. J'annonce ça à mes parents et on est au restaurant. Et puis là, ma mère tombe en larmes, ma sœur aussi. Et puis là, ma mère me dit « J'ai un cancer, j'ai une chance sur deux de m'en sortir. » Je vous raconte ça parce que c'est les poids qu'on peut porter aussi de l'enfance. Moi, j'ai eu l'impression dans le rugby de devoir porter mes parents. C'était ces bagages que j'avais de leur passé. C'est tout ce qu'on peut trimballer aussi de bagages inconscients. Et puis là, cette sensation de dire « je vais encore porter et puis j'en ai envie. » Puis c'est ma source de motivation inconsciente. Donc je fais cette pièce de théâtre. Je fais 115 représentations avec Isabelle Adjani, magnifique. Voilà, une personne extraordinaire. C'est un peu mon Parc des Princes à moi, c'est un peu ma finale, parce que j'en avais pas joué une. Donc le 31 décembre 2006, mes parents sont dans le public, des roses qui pleuvent de partout, enfin c'est génial, ma carrière de comédien est lancée. Sauf que je passe 2 castings après, un pour Coca Light, et quand tu fais 100 kilos Coca Light, le mot light en fait, il a pas trop... Et puis un autre casting pour une marque de jean, où je me rends compte que tous les mecs font la moitié de moi dans la salle de casting, le mollet rentre pas dans le jean, et je me dis, je vais arrêter ma carrière de comédien, Je sens que j'arrive au bout, je fais quand même une petite apparition dans un film où j'ai failli me faire bouffer le cul par un léopard en Afrique du Sud. Ça s'appelle « Pars vite et reviens tard ». Et j'ai été pris pour mon cul d'ailleurs, parce que je dis pas un mot dans le film et je meurs au bout de 5 minutes. Et donc là, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je retourne au rugby une année, donc j'ai Jackie Lorenzetti du Racing qui me fait confiance. Encore une autre déviation, mais qui m'amène à aller au bout de mon corps. Parce que cette année-là, je vais faire 8 déchirures. Et au milieu de cette année... Je pense que ça a été ma déviation, on va dire. Je rencontre Richard Esco, qui est journaliste à l'Équipe et philosophe aussi. Et au coin d'une table de bar, il me dit, Raphaël, il m'écrit sur une petite serviette, il me dit, t'as été dans le paraître pendant 27 ans, il va falloir que tu ailles découvrir l'être qui tu es à l'intérieur, et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre les deux. Et il me tend un bouquin de philosophie. Et là, je vais rentrer en mode introspection. Parce que, vous savez, quand une carrière s'arrête, une fois de plus, c'est l'image qu'on peut avoir du sportif ou de la sportive, mais il y a ce qu'on appelle la petite mort, c'est qu'est-ce qu'on fait de son corps, qu'est-ce qu'on fait de ses émotions, qu'est-ce qu'on fait de ce mental, justement, qu'on a cadré pour pouvoir être performant sur le terrain, et qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité, c'est qui croit en nous et en quoi on croit, c'est retrouver sa place je dirais, dans la société, dans une vie normale, quand on passe de 7, 8, 10, 15, 20 000 euros par mois à 2, 3 000 euros avec une phase de chômage, ben, il y a des addictions qui peuvent arriver, donc l'alcool, la drogue, le sexe. Ben moi, ma drogue, ça va être la philo, la psycho, la mythologie aussi. Donc, je me plonge à âme perdue pendant 5 ans dans la philosophie. Et en juillet 2008, je rencontre une jeune femme qui s'appelle Julie et qui va prendre toute mon introspection et toute mon après-carrière dans la gueule. Elle, débarquant du sud de la France, on vit une histoire d'amour assez passionnée, passionnante et assez destructrice. Je vais tomber au RSA à 400 euros par mois, je vais reprendre des études de philo, je vais faire une formation de coach mental, et puis cette sensation de devoir sauver cette jeune femme aussi qui débarque à Paris, qui vit la fin de son adolescence aussi, qui bosse la nuit, qui veut devenir journaliste, et moi qui suis perdu dans mon introspection, donc j'objectalise un petit peu, l'autre. Ouais, je pense que je l'ai détruit inconsciemment. Alors c'est pas une violence physique, mais c'est une violence morale et psychologique. Et le jour, la nuit, j'écris sur des feuilles, sur mes ordinateurs, sur mes téléphones portables. Je pars voyager dans Paris la nuit pour écrire un peu tout ce que j'avais vécu toutes ces années, pour essayer de déstructurer un peu le monde qu'on tentait de me vendre sur mon plasma. Et puis je rencontre un agent littéraire qui s'appelle Antoine Audouard et qui me dit « t'as écrit 700 pages. Si tu veux qu'un bouquin sorte, il faudra en écrire 250. Donc il va falloir synthétiser, je vais te présenter Thomas Saint-Ourens. » Et puis j'appelle Antoine et je lui dis « écoute, je suis prêt à travailler avec Thomas. On sort ce bouquin en 2011. » qui s'appelle donc « Quand j'étais Superman ». Et là, toutes les chaînes de télé, c'est « Un ancien dieu du stade raconte sa descente aux enfers ». Donc dieu, stade, descente, enfer. Et ils me font passer pour un cocaïnomane dépressif alcoolique. Voilà, synthétisé et caricaturé en 3-4 minutes sur des reportages. Donc de ce jour-là, je dis « voilà, il y a un système médiatique qui existe, moi je vais le contourner, je vais commencer à faire des conférences pour raconter mon histoire sous forme de storytelling ». Donc, je fais des conférences en entreprise et dans le monde du sport. Mais il y a un énorme paradoxe, en fait, c'est que dans le paraître, j'ai un super discours, c'est-à-dire que tout le monde me regarde comme ça en disant « c'est génial, ce que tu as vécu, je l'ai vécu aussi indirectement ». Il y a une notion de transfert qui se fait, qui est assez sympathique, je dirais, pour l'ego. Dans le paraître, je suis là, mais dans l'être au quotidien, je me comporte comme un connard avec cette jeune femme. Mais je m'en rends pas compte, parce que la philo me fait devenir dogmatique, en fait. Et je suis creux à l'intérieur et je suis vide. Et puis en 2013, pour l'avoir appris dans la mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Julie, en septembre 2013, me dit « écoute, t'es devenu un gros con, c'est fini ». Et là, elle est arrivée avec une petite aiguille. Et là, l'ego a explosé complètement. Et là, je suis rentré dans ce qu'on appelle la dépression. En fait, là, je perds 10 kilos. Les émotions dégueulent de partout. Et puis, je crois plus en moi, je crois plus en grand-chose. J'ai jamais pensé au suicide, mais là, je suis perdu. Et je meurs d'une partie de moi-même le 28 décembre 2013. Mes sœurs m'emmènent à l'HP de Clermont. Alors, je suis passé par des phases de colère. J'en ai voulu à cette jeune femme, j'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu à cet entraîneur, j'en ai voulu au rugby, j'en ai voulu à la colère. Dans les phases de deuil, c'est le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et la résilience. Le déni, c'était le corps qui parlait, je ne l'ai pas écouté. Psychologiquement, non plus, je ne m'écoutais pas. La colère d'en vouloir à tout le monde. Et puis, un moment où, quand on est vraiment au fond, la tristesse de se rendre compte qu'en fait, qu'on n'est pas victime d'un système, mais qu'on est responsable aussi de ce qui nous arrive. Donc, j'ai passé 9 mois en enfer, vraiment, seul face à moi-même. Et j'ai décidé de me regarder en face, c'est-à-dire de voir un peu tous les rôles que j'avais joués, donc de m'appliquer un petit peu toutes les prises de conscience que j'avais eues dans ces livres, parce que la théorie, elle est belle. Et on en a des théoriciens, des spécialistes de tout. Moi, j'étais un spécialiste de tout, mais j'étais un spécialiste de rien du tout, en fait. Donc j'ai accepté d'être au fond du seau, j'ai accepté d'être faillible, j'ai accepté d'être vulnérable. Et puis, toujours un peu inconsciemment en mode sauveur, j'ai décidé de reconquérir cette jeune femme. Ça a été très dur parce que, voilà, comme une histoire d'amour, on a joué des rôles qui étaient peut-être trop grands pour nous, à surprotéger l'autre, à s'oublier soi. Et un soir à Biarritz, où elle est en larmes, je suis en larmes, et tu t'es pris pour mon père, et tu t'es comporté comme un connard, et toi aussi. Enfin bref, on se renvoie la balle. Et puis, un gamin de 18 ans qui vient vers moi et qui me dit « Oh, Raphaël Poulain, génial! J'ai lu le bouquin, j'ai vu la vidéo sur Internet, on peut faire un selfie. » Et là, Julie a séché ses larmes, et elle a regardé ce jeune homme, et elle lui a dit « Tu savais qui c'est ce connard de Superman ?» Je me suis rendu compte vraiment du mal que j'avais pu lui faire, et je me suis dit que ce serait elle. Ce serait elle parce que je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Qu'elles doivent aussi nous faire prendre conscience aussi de ce que l'on est aussi, des déviances que l'on peut avoir, et puis voilà, Et donc, on s'est remis ensemble, on apprend à communiquer différemment. Et puis le 6 mars 2016, à 9h28, ben voilà, on se prend pour des cadors, nous les hommes, à faire 3 pompes et 2 abdos et à plaquer des mecs sur un terrain. Et là, j'ai vu, en fait, ben voilà, la puissance d'une femme, en fait. Elle a donné naissance à notre fils, notre premier fils, Léo. Donc là, il y a, je dirais, une autre phase de la vie, parce que tu deviens père, parce que tu apprends ce que c'est que l'amour inconditionnel, parce que t'as une vraie responsabilité. C'est une véritable révolution, quoi. Et puis, de ce qu'on nous apprend sur Doctissimo et tous ces sites-là, en fait, non, la réalité, elle est tout autre, quoi. Et tu navigues à vue, quoi. Le 30 mars 2017, ma mère est sur son lit d'hôpital. C'est jeudi après-midi, je discute avec elle, j'ai sa main entre mes mains, et elle me dit, Raphaël, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Parce que tu as un super discours, génial, mais c'est quoi ton rêve vraiment? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et je lui dis, maman, depuis cette rencontre en 2007 avec Richard Esco, voilà, j'ai envie de trouver l'équilibre entre ce que je suis et ce que je représente, et je veux monter sur scène et incarner l'homme que je suis avec ma vulnérabilité, avec mes failles, avec voilà, la confiance que j'acquiers au fur et à mesure. Et elle me dit, vas-y. Et le lendemain matin, 9h15, voilà, le dernier souffle, et là, une tristesse immense, et on se rend compte, on sort de la toute-puissance. Et de ce jour-là, j'ai dit, je monterai sur scène. Elliot, mon deuxième fils, est arrivé en 2019. Et là aussi, bah voilà, là, il y a deux égos qui se confrontent, c'est les deux frères qui avancent aussi. Et donc, je trouve un théâtre au mois de février 2020 à Avignon, et le Covid est arrivé. Avignon annulé, donc je touche pas cet argent, donc je dois rembourser les affiches, les trucs. Et puis, plus de conférences. Et là, le jour de mon anniversaire, le 10 juillet, ce soir-là, ce président de l'association dont je suis parrain, qui s'appelle Oval Citoyen, qui est une association qui vient en aide aux migrants, aux LGBT, aux jeunes sortis de prison et aux jeunes de banlieue, par le biais du rugby, ce président, Jeff, me dit, ben voilà, si tu veux, tu peux venir travailler pour l'association. Donc en septembre, on revient ici, et je prends ma bagnole, et en fait, je fais du ramassage de bouffe dans tous les clubs de rugby de la région, puis je la redistribue à des associations, ça dure 6 mois. Et au milieu de ces 6 mois, fin novembre, en fait, Christophe Dominici se donne la mort. C'était dur parce que le monde du rugby, je pense, vient à un moment assez tragique. Je travaille sur Eurosport, donc je fais un podcast le lendemain où j'avais écrit une lettre lui rendant hommage, et puis à l'intérieur de cette lettre, en fait, je dis, ouais, à un moment donné, il va falloir qu'on se penche un petit peu sur l'homme moderne aussi, sur ce que l'on peut vivre en tant qu'homme. Moi, j'entends la colère des femmes tout à fait légitime sur ce que vous pouvez vivre, mesdames, sur le MeToo, sur tout ça, et c'est vrai que j'entends très peu d'hommes prendre la parole sur le fait de, bah, c'est compliqué, en fait, de devenir un homme, quoi. C'est compliqué d'exister aussi dans ce monde où on nous a vendu un idéal masculin par l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance, le muscle, avoir une paire de couilles. Je sais de quoi je parle, on a fait les calendriers, donc c'est... Et puis, voilà, pas trop de place à la vulnérabilité, pas trop de place à l'échec, à la remise en question, tout l'aspect psychologique qu'on dit féminin, et la vulnérabilité qu'on dit féminine. Enfin, tous ces clichés ressortent, en fait, à ce moment-là, et je me dis, mais non, enfin, on se doit de venir en aide aussi aux hommes modernes pour essayer de se comprendre et s'apprendre différemment, et essayer de trouver aussi notre place à vos côtés. Et donc, quand Christophe est décédé, ben, j'ai ressorti un petit peu des tiroirs tous les projets que je travaillais depuis 2014. Il s'avère qu'en 2014, je travaillais sur un projet qui s'appelait Les héros meurent jeunes. C'était un documentaire pour raconter un peu le, je dirais pas l'envers du décor, mais l'homme derrière la cape de super-héros, derrière la cape de sportif. Et Christophe devait être dans le documentaire. Et Geoffrey Abadi aussi, qui s'est donné la mort aussi en 2015, devait être dans le documentaire. Et d'autres amis aussi qui sont partis, quoi. En fait, au bout d'un moment, c'était le point culminant de on va où? Mais je parle du sport, mais ça va bien au-delà du sport. C'est sociétal. C'est un moment où, à quel moment, nous, on va se remettre en question. Le monde de l'entreprise en a besoin. Notre intimité, on en a besoin aussi de cette remise en question, d'essayer de comprendre et d'apprendre et de s'apprendre différemment qu'avec ces clichés de virilité, avec ce patriarcat, avec cette éducation judéo-chrétienne qu'on a depuis 2000 ans. Je travaille sur un documentaire aussi sur mon histoire, et puis j'écris un autre documentaire sur les migrants aussi et les LGBT. Et puis j'ai deux autres formats podcast en fait que je mets en lumière. Et puis ce seul en scène, je veux monter sur scène. Et je remarque que je suis aussi bon dans le fait d'être passeur, je dirais. Et j'ai jamais su faire une passe au rugby, donc c'est ça qui est paradoxal. Mais d'être passeur à la fois de valeurs, d'un témoignage et de donner la parole à des femmes et à des hommes aussi inspirants pour essayer de fonctionner un peu différemment. Donc j'ai ces 6 projets. Et là, c'est vraiment une déviation, je dirais, consciente. Ouais, ces projets-là, je pense qu'ils ont du sens et ils peuvent être vraiment, vraiment inspirants. Donc voilà, je suis en recherche aujourd'hui de personnes qui aient un coup de cœur, qui aient, oui, les moyens financiers, mais qui me suivent sur cette aventure humaine. Et voilà, c'est une forme de renaissance, une deuxième partie de ma vie. Et moi, ce qu'on m'avait vendu, c'est faire pour avoir, pour être. Et moi, je retourne un peu le truc en disant, c'est déjà être pour faire, pour avoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
C'était un entretien mené par Lauren Lott et réalisé par Sydney Clazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.